Chapitre 71. Si bas sous la forteresse, la strate rocheuse, le cœur même de la montagne en réalité, était bien plus sombre que dans les catacombes et considérablement plus dure. À l'inverse des couloirs et des salles où reposaient les morts, les tunnels ici avaient été terriblement difficiles à creuser. De la sueur, des larmes et du sang versés afin d'emprisonner les individus malfaisants et de protéger les autres. Enfin, c'était l'idée d'origine. En ces lieux, l'odeur de la sueur âcre et des déjections de rats remplaçait celle de la décomposition. Avant d'entrer dans le tunnel principal de la prison, Magda resserra les pans de son manteau. Ici, il faisait froid en permanence, et pinça les narines pour se défendre contre la pestilence. Arrivée devant un conduit vertical, la jeune femme et son compagnon entreprirent de descendre une échelle de fer aux barreaux rouillés. Quand ils arrivèrent en bas, deux colosses leur barrèrent le chemin. À l'évidence, ils avaient entendu venir les visiteurs depuis un bon moment. Tous les deux, torses nus et dotés d'une abondante pilosité, ces gardiens évoquaient irrésistiblement des ours. À la lumière du globe lumineux de mérite, Magda découvrit leur visage taillé à la serpe et noirci par la suie des torches comme celui des mineurs de fond. Méfiant vis-à-vis de mérite, les cerbères semblaient très surpris de se trouver face à une femme. Posée sur une table rudimentaire, une lampe à huile fournissait une très chiche lumière. Habitués à vivre pratiquement dans le noir comme des taupes, les deux types plissaient les yeux à cause de la lumière du globe. Magda ne leur laissa pas le temps de parler.
« Une espionne est prisonnière ici, nous sommes venus la voir. »
Les deux costauds se regardèrent, surpris que ce soit la femme qui ait engagé la conversation et pas l'homme.
« Les prisonniers n'ont pas droit aux visites !»
lâcha le plus grand du duo.
« Qui parle de visite? Je suis là pour interroger cette femme. »
De méchante humeur, le gardien plaqua les poings sur les hanches.
« Les prisonniers ne répondent pas non plus aux questions. »
Il jeta un regard complice à son collègue.
« Sauf sous la torture. »
Les deux types ricanèrent. Pour y aller au culot, comme elle avait dit, Magda savait qu'elle n'allait pas devoir faire de la dentelle. Ayant souscrit à son plan, Mérite la laissait agir, conscient qu'elle jouait un rôle très déconcertant pour des primates pareils. Une femme, prendre les choses en main, il y avait de quoi les étonner, vraiment. S'il n'intervenait pas, Mérite restait cependant prêt à tout, la main sur la poignée de son épée. Magda se pencha vers son interlocuteur, le regarda dans les yeux et lâcha.
« Dans ce cas, il va falloir que je travaille cette garce au corps. »
Stupéfait, le gardien voulut parler, mais la jeune femme enchaîna.
« Sais-tu qui je suis? Sais-tu à qui tu t'adresses ?»«
Ouais, à une... »
Derrière Magda, Mérite se passa un index sous la gorge, comme pour avertir le type qu'énerver sa compagne n'était pas une bonne idée. La ruse dut fonctionner car le rusto ravala sa remarque désobligeante, la langue pointant entre ses chicots. Tenant compte de l'avertissement du sorcier, l'autre gardien parla d'un ton moins agressif.
« Désolé, mais je crains que nous ne sachions pas qui vous êtes et ça nous met en porte-à-faux. »
Magda rabattit sa capuche.
« Je suis Magda Cyrus. »
« La veuve du premier sorcier ?»
maugréa le premier type.
« Accessoirement, oui. Mais surtout la future épouse du nouveau premier sorcier, dont la nomination est imminente. »«
Nouveau premier sorcier? C'est quoi cette histoire ?»
Magda se tourna vers Mérite.
« On ne dit donc rien aux gardiens ?»
Le sorcier haussa les épaules. Magda regarda de nouveau le grand costaud.
« Je parle du procureur Lotin. »
Les deux gardiens eurent un mouvement de recul. Comme tout le monde, ils connaissaient Lotin et sa réputation.
« Il va être nommé premier sorcier ?»
s'étonna le plus petit gardien. Magda plaqua à son tour les poings sur les hanches.
« Tu vois un meilleur candidat? Dans ce cas, pourquoi ne pas soumettre ton idée au conseil? Dois-je dire au conseiller et à mon futur mari que deux gardiens de prison ont pensé à quelqu'un de plus qualifié ?»«
Non, bien sûr !»
s'écrièrent les deux hommes.
« Non !»
répéta le plus grand.
« Vous nous avez mal compris. Lotin fera un très bon premier sorcier. »«
Et un merveilleux mari !»
lâcha froidement Magda.
« C'est moi qui l'a choisi pour l'épauler, figurez-vous, mes amis. Mais vous avez peut-être des objections à émettre ?»« Le plus petit gardien décida de prendre les choses en main.
« Félicitations, dame Cyrus. Il n'aurait pas pu mieux choisir son épouse. Tout le monde sera ravi par ce mariage. »
Magda accepta le compliment avec un sourire vaguement méprisant.
« Mais bon, sire, fit-elle ironique, quand mon futur mari me charge d'une mission, il entend que je l'accomplisse. Qu'en pensez-vous ? »
« Eh bien, si vous préférez, j'attendrai que l'un de vous court jusqu'à son bureau, le dérange dans son travail et lui demande confirmation. Mais vous préféreriez peut-être qu'il descende jusqu'ici, afin que vous puissiez l'interroger sur ses intentions. Il serait content de vous expliquer ses plans, n'en doutez pas. »
Magda se tourna vers Mérite.
« Ce serait amusant, pas vrai ?»«
Enfin, ça dépend pour qui. »
Les deux colosses se consultèrent du regard.
« Ce ne sera pas nécessaire, dame Cyrus, » dit le plus petit. « Puisque... »«
Dans ce cas, c'est bavardé, ouvre cette porte. »
Les deux types sursautèrent.
« Bien sûr, »
souffla le plus grand alors que son collègue tirait une grosse clé de sa ceinture.
« Mais j'ai quand même une question, dame Cyrus. Je comprends que Lautin vous ait chargé d'interroger la prisonnière. »
Il désigna Mérite.
« Mais que fait ici votre compagnon ?»
Magda foudroya l'homme du regard comme si elle avait du mal à croire qu'on puisse être si idiot.
« Tu crois que je vais la torturer moi-même, cette chienne ?»«
Oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est vrai qu'il n'a pas l'air commode, votre assistant. »
Alors que l'autre gardien bataillait avec la serrure, le grand crétin lui fit signe de se dépêcher. Bandant tous ses muscles, le petit imbécile réussit enfin à déverrouiller la lourde porte. Ensemble, les deux gardiens durent tirer très fort pour qu'elle consente à s'ouvrir. À l'évidence, elle était trop massive pour qu'un homme seul la manipule. Lorsque l'ouverture fut suffisante, le grand gardien ordonna à l'autre de prendre une torche et de conduire les deux visiteurs jusqu'à la bonne cellule. Visiblement, il avait hâte d'être loin de Magda et de sa langue acérée. Le gardien s'empara d'une torche, l'alluma à la lampe, fit signe à Magda et à Mérite de le suivre et baissa la tête pour franchir la porte. Magda tira sur sa jupe et enjamba le seuil surélevé. Remontant un étroit tunnel qui empestait la moisissure, le gardien prit sur la gauche à la première intersection, s'engageant dans un passage si exigu qu'il fallait se placer de profil pour s'y faufiler. Pataugeant dans des flaques d'eau croupies, la petite colonne passa devant de petites portes de fer munies de guichets presque tous fermés.
« C'est là !»
dit le colosse en désignant une cellule. Un regard de Magda suffit pour qu'il entreprenne aussitôt d'ouvrir la porte, sa torche dans une main et la clé dans l'autre. Ni Magda ni Mérite ne faisant mine de l'aider, il mit un moment avant de venir à bout de la serrure. Quand il eut poussé le battant de fer, Mérite passa devant l'homme et Magda lui emboîta le pas, suivi par le gardien. À la lueur du globe lumineux, la jeune femme vit que la minuscule antichambre, à la voûte très basse, donnait sur une autre porte. Un système de double protection réservé aux prisonniers qui possédaient le don, lui avait expliqué un jour Baracus. Pour plus de sécurité, des champs de force spéciaux interdisaient toute évasion.
« Donne-moi la clé, » dit Mérite au gardien, « et va nous attendre avec ton collègue. »
Le geôlier hésita. Agacé, Mérite claqua impatiemment des doigts. À contre-cœur, l'homme lui remit la clé. Voyant que les visiteurs attendaient qu'il se retire, il hésita un peu, puis finit par faire ce qu'on lui demandait. « Si vous avez besoin d'aide, appelez-nous. Avec l'écho, on vous entendra. »«
Si la femme crie, » dit Mérite, « inutile d'accourir. J'ai des méthodes plutôt radicales. »
Alors que Magda s'assurait du départ de leur antipathique guide, Mérite s'attaqua à la seconde porte. Poussant de toutes ses forces, il réussit à l'entrebâiller. Avec le froid, un nuage de buée se formait devant le visage de Magda chaque fois qu'elle expirait. Quand Mérite eut assez poussé la porte, les deux compagnons passèrent la tête dans la cellule. Suspendue au mur par des chaînes fixées à ses poignets, une femme nue ensanglantée, les bras en croix, leva à peine la tête en voyant de la lumière.